Europe 1.
Au cœur de l'histoire, avec Virginie Giraud.
Nous sommes le 4 juin 1913, à Epsom, près de Londres. Dans l'hippodrome, c'est l'effervescence. Dans un instant, le derby d'Epsom, la plus prestigieuse course hippique de plat de l'année, va commencer. Ça ne durera pas plus de 3 ou 4 minutes, mais l'adrénaline va faire trembler les parieurs. Les bookmakers viennent de clôturer leur guichet, les turfistes achèvent leurs pronostics, on joue des coudes pour être au plus près de la barrière blanche qui sépare le public des cavaliers. Emily Davison, 45 ans, l'air grave, s'est frayé un chemin jusqu'au bord de la piste du côté du virage de Tattenham Corner, vers le milieu du parcours. Personne ne fait attention à cette dame un peu nerveuse avec sa robe noire et son chapeau de paille. On sait bien que les femmes adorent les courses de chevaux aussi. Elle tripote nerveusement des choses dans les poches de son manteau. Ce sont ses coupons de paris, à coup sûr.
Et voilà, les chevaux s'élancent. Savoyeur monté par Edwin Pepper fait la course en tête. Il est favori pour remporter le derby. Mais attention, Kraganour le menace sur sa droite, suivi de Nimbus, Shogun, Louvois et des Comet gagnent du terrain à la corde.
Emily Davison a le cœur qui bat à toute allure. Le cheval qu'elle guette est au milieu du peloton. Il s'agit d'Anmer, le cheval du roi George V, monté par le jockey Herbert Jones. Les chevaux se rapprochent de Tattenham Corner. Leurs foulées sont si puissantes qu'elles semblent faire trembler la terre. On dirait qu'un séisme se prépare. Ça y est, c'est le moment. Emily Davison passe sous la barrière de sécurité et s'élance sur la piste en direction de Anmer, un morceau de tissu entre ses mains tendues. Mais le bolide à quatre pattes du roi file à une vitesse supérieure à 60 km/h. Le choc est terrible. Emily Davison est brutalement renversée, le cheval tombe sur le côté, le cavalier est éjecté. Quand le public comprend ce qu'il vient de se passer 2 secondes plus tard, les chevaux de course sont déjà loin. La foule se précipite sur la piste pour aider la femme et le cavalier. Au loin, la course continue. On entend des hurlements de joie dans les tribunes.
Kraganour, premier, Aboyeur, deuxième, Louvois, troisième.
Les secours se précipitent sur les blessés. Herbert Jones, le cavalier, est évacué sur une civière. Emily Davison est emmenée à l'hôpital où elle décède 4 jours plus tard des suites de ses blessures. Mais qu'a-t-elle voulu faire en se jetant sous les sabots d'un cheval au galop? Se suicider? Non, Emily Davison est une suffragette, une militante pour le droit de vote des femmes, adepte des opérations spectaculaires. Les historiens pensent aujourd'hui qu'elle voulait suspendre une écharpe à l'encolure du cheval du roi, une écharpe aux couleurs du WSPU, le Women's Social and Political Union, qui se bat pour le droit de vote des femmes. Une action sensationnelle et incroyablement stupide quand on connaît la vitesse d'un cheval au galop dans une course de plat. Emily Davison est néanmoins devenue une suffragette martyre. Les femmes du Royaume-Uni ont obtenu le droit de vote en 1918. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Suffragette et mouvement suffragiste, le droit de vote pour les femmes. Voter, c'est un droit et un devoir. J'ai toujours considéré que ne pas aller aux urnes, même pour voter blanc, était un affront fait aux hommes et aux femmes qui se sont battus pour que nous puissions exprimer nos voix. Surtout quand on est une femme. En France, le beau sexe vote pour la première fois en 1945. Il y a eu un combat de presque 2 siècles pour en arriver là. Tout commence avec la Révolution française. La fin de la monarchie absolue transforme les sujets de Sa Majesté en citoyens grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée en 1789. L'article 1er, vous le connaissez par cœur. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais voilà, ce sont les hommes avec un H minuscule. Alors oui, on appelle bien les femmes « citoyennes » quand on les apostrophe. Elles peuvent participer aux manifestations, exprimer leurs idées dans des clubs, mais elles n'auront aucun droit civique. Évidemment, certaines femmes s'insurgent, comme l'écrivain Olympe de Gouges. En 1791, elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un projet de loi ayant vocation à accorder l'égalité civique aux hommes et aux femmes. Voilà son article premier. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. On doit aussi à Olympe de Gouges cette phrase. Si la femme peut monter à l'échafaud, elle doit pouvoir monter à la tribune. Mais le combat d'Olympe est trop en avance sur son temps. Il ne trouve que peu d'écho dans la société. Après les troubles de la Révolution, l'ordre revient avec le consulat et l'empire de Napoléon. Le nouveau code civil rappelle à la femme son infériorité, sa condition d'éternelle mineure. Sa place est à la cuisine ou au bordel. Seule la riche célibataire ou la veuve Plénosas peut espérer tirer son épingle du jeu, mais elle ne se frayera jamais un chemin jusqu'au bureau de vote. Bon, de toute manière, ce n'est pas vraiment le sujet sous l'Empire, ni sous la Restauration des Bourbons, ni pendant la monarchie de Juillet. De 1815 à 1848, ces monarchies constitutionnelles ou parlementaires permettent à une partie des hommes les plus riches d'élire les membres du Parlement. Pour ça, il faut payer le cens, une sorte d'impôt pour faire simple. Les plus pauvres et les femmes sont exclus du scrutin. C'est donc ce qu'on appelle le vote censitaire, et cela concerne environ un tiers de la population adulte. Mais au XIXe siècle, où tout change brutalement, où la révolution industrielle modifie les rapports sociaux, une partie des femmes aspire à prendre part à la vie politique. Tout ça nous emmène en 1848 et à la chute de la monarchie de Juillet. C'est la Deuxième République qui commence. Ça y est, les hommes ont à nouveau le droit de vote. C'est le retour du suffrage universel masculin. À Paris, la femme de lettres Eugénie Niboyet trépigne. Elle a la cinquantaine et ça fait longtemps qu'elle milite dans les premiers mouvements suffragistes qui se battent pour le droit de vote des femmes. 1848 sera une année décisive, elle le sait. Elle fonde donc un nouveau journal pour porter ses idées, la voix des femmes. Elle va y prôner une idée révolutionnaire. Elle souhaite que George Sand se présente comme candidate aux élections de la Constituante, la nouvelle chambre de la République naissante. Cette star de la littérature, l'ami de toutes les têtes de file de cette nouvelle République, cette socialiste permettrait de changer la vie des femmes en les faisant entrer en politique. Mais voilà, il y a un problème. Eugénie Niboyet a fomenté son coup sans en parler à la principale intéressée. George Sand est bien passionné de politique en 1848 et engagé en faveur de la République, mais elle n'a aucune intention d'être élue. Elle répond à Eugénie Niboyet dans une lettre ouverte adressée aux membres du gouvernement provisoire. Elle se désolidarise de son entreprise. Niboyet est dévastée. Pour elle, la priorité, c'est d'accorder le droit de vote aux femmes. Pour Sand, au contraire, c'est d'obtenir leur émancipation juridique, le vote. Ça viendra après, chaque chose en son temps. Coup d'épée dans l'eau, donc. En 1848, les femmes ne voteront pas, et de toute manière, le nouveau président, Louis-Napoléon Bonaparte, établit le Second Empire en 1852. Une victoire est cependant gagnée. Le suffrage universel masculin reste la norme pour les élections des institutions qui régissent la France. Cette année 1848 voit naître la championne incontestée des suffragistes françaises, Hubertine Auclert. Cette passionnaria, qui, dans sa jeunesse, s'imaginait entrer dans les ordres, va consacrer sa vie à la cause des femmes sous la Troisième République. Les suffragistes françaises ne sont pas des adeptes des actions coup de poing comme leurs consoeurs anglo-saxonnes, les fameuses suffragettes. En France, on aime l'élégance. C'est comme ça, que voulez-vous ? Nos suffragistes préfèrent les manifestations et la voie légale. En 1872, Hubertine Auclert rejoint l'association pour le droit des femmes créée par Léon Richer et Maria de Rheims, la cofondatrice, soit dit en passant, du droit humain, la première obédience franc-maçonne mixte. Vous remarquerez que ces associations françaises ne sont pas strictement féminines, parce que la France a toujours eu des hommes engagés favorables à l'égalité des sexes. Mais Hubertine est plus radicale que ses amis. Alors elle fonde sa propre association dès 1876, le droit des femmes, qui deviendra ensuite le suffrage des femmes. Ses idées sont portées par son propre journal, La Citoyenne. Hubertine est coutumière des actions médiatiques à tel point qu'elle gagne le surnom de suffragette française, ce qui n'est pas un compliment à l'époque. En 1881, face à l'échec de ses revendications, elle médite un nouveau coup d'éclat. Si les femmes ne peuvent pas voter, il n'y a aucune raison qu'elles payent des impôts. Pas de droits, pas de devoirs. Elle écrit donc une lettre au préfet de la Seine pour expliquer sa décision. Évidemment, ce coup est un nouvel échec. Hubertine va payer ses impôts comme tout le monde, mais elle a au moins démontré l'hypocrisie du système qui traite les femmes en inférieures, alors qu'elles sont bien égales aux hommes quand il s'agit de participer aux recettes de l'État. Vous voulez que je vous dise pourquoi le combat d'Hubertine Auclert a été un échec ? La réponse ne va pas vous plaire, hein, mais c'est comme ça. Le droit de vote des femmes n'intéresse alors qu'une minorité de femmes et encore une plus petite partie des hommes. C'est alors un combat élitiste et urbain dans une France qui est alors largement paysanne et ouvrière. D'ailleurs, Hubertine Auclert se plaint des femmes qui veulent rester dans leurs conditions inférieures dans ses mémoires « Journal d'une suffragiste ». Elle y écrit cette phrase édifiante en juin 1883. Je la cite. « Je combats exclusivement pour les femmes. Je m'évertue à les exaucer, à exalter leurs qualités, à dissimuler leurs défauts. Et ces viles esclaves, pour me récompenser de prendre si chaleureusement leur défense, elles me cracheraient au visage si elles le pouvaient. Nos droits, nous les devons à une toute petite partie d'hommes et de femmes qui se sont battus pour ça. » Mais les combats d'Hubertine Auclert et d'autres militants suffragistes portent leurs fruits. En 1901, une première proposition de loi pour le droit de vote des femmes arrive à l'Assemblée par le biais du député républicain indépendant de Vendée, Jean-Fernand Gautret. Notez bien que son idée est de donner le droit de vote aux femmes qui ne dépendent pas d'un mari, c'est-à-dire les célibataires, les divorcés et les veuves. Mais le texte est abandonné. Deuxième essai en 1906, avec le député d'Action libérale du Pas-de-Calais, Paul Dussaussois, pour le suffrage féminin aux élections locales. Ce sera au moins un début. Mais le projet n'aboutit pas. Troisième essai en 1909, avec le député Ferdinand Buisson. Nouvel échec. Et puis, en 1914, c'est la guerre. Les femmes n'iront pas voter, mais elles iront remplacer les hommes dans les champs, dans les usines, dans les transports, etc. Si vous le voulez bien, on fait un bond de 5 ans pour aller tout de suite en 1919. La guerre, qu'on surnomme la Der des Der, est finie, et le droit de vote des femmes revient sur le tapis. Cette année-là, Maurice Barrès, homme politique et écrivain très à droite, chantre du nationalisme le plus exacerbé, celui qui considère qu'on est français que par la terre et les morts, propose de donner le droit de vote aux veuves de guerre pour exprimer la voix de leur mari mort dans les tranchées. Certaines féministes s'insurgent. Plutôt que de voir une porte ouverte vers le suffrage universel féminin, elles dénoncent un droit qui permet aux poilus morts de s'exprimer. On parvient finalement à négocier au Parlement un droit de vote des femmes, bien que des députés de droite craignent la concurrence des femmes dans les institutions, et d'autres de gauche redoutent de voir les femmes qu'ils estiment si influençables voter en fonction de ce que leur dira le prêtre de leur paroisse. Bref, on est loin du consensus. Mais le projet de loi passe à l'Assemblée. Il est en revanche refusé au Sénat 6 fois de suite dans l'entre-deux-guerres. Nous voilà en 1936. L'Union des gauches a gagné les élections, c'est la victoire du Front populaire avec ses promesses de congés payés, de progrès social et peut-être de vote des femmes. Bon, elles n'ont pas encore le droit de vote, mais elles font leur entrée au gouvernement comme sous-secrétaires d'État. Elles sont 3, de gauche et toutes affectées aux affaires sociales. Parmi elles, il y a Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, déjà titulaire d'un prix Nobel. Pour la petite histoire, son ministre de tutelle est Jean Zay, grand réformateur de l'éducation en France, assassiné par la milice de Vichy en 1944. Il est entré au Panthéon en 2014. Eh bien, ce Jean Zay, si progressiste, interdit à ses 3 sous-secrétaires d'État de moufter pendant les séances au Parlement. C'est lui qui parlera pour évoquer les affaires de son ministère. Estimant qu'elle est là pour être décorative, Irène Joliot-Curie renonce vite à sa nouvelle fonction. Jean Zay dira qu'elle se languissait de son laboratoire. Bref, les femmes ne votent pas encore, mais elles commencent à occuper des fonctions administratives lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Et c'est le général de Gaulle qui, le 23 juin 1942, alors qu'il organise la résistance depuis l'étranger, promet le droit de vote aux femmes quand la France sera à nouveau libre. Les femmes sont très engagées dans la résistance à tous les niveaux. Ce n'est que justice. Au printemps 1944, l'Assemblée consultative d'Alger, qui prépare les institutions de la future France libre, débat donc de la question du vote des femmes. Le communiste Fernand Grenier défend la promesse du général. La femme française devra être électrice et éligible, ne plus être ni traitée en inférieure ni en mineure. Mais d'autres députés, y compris à gauche, comme le radical Paul Jacobi, grincent des dents. Ça chicane à l'Assemblée et finalement, on remanie la proposition. Les femmes seront éligibles, mais elles n'auront pas le droit de vote. Le député Grenier ne lâche pas le morceau. Et à la fin de la séance, par 51 voix contre 16, les femmes seront éligibles et électrices après la fin de la guerre. Cette disposition est confirmée le 5 octobre 1944 par le gouvernement provisoire de la République française et inscrite dans la Constitution de la 4e République en 1946. Dans l'intervalle, les femmes sont allées voter pour la première fois dans une France enfin débarrassée des bruits de bottes nazies et des relents de la Gestapo. Les Françaises se présentent aux urnes pour les élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945. Le droit de vote des hommes, et encore plus des femmes, est un combat de haute lutte. C'est un droit, mais aussi un devoir. Aux dernières élections européennes de 2019, 49,6% des électeurs ne se sont pas déplacés. Et depuis 1944, le taux d'abstention des femmes est toujours plus élevé que celui des hommes. Le 20 juin 2021, pour les élections régionales, 72% des femmes ne sont pas allées voter, contre 59% des hommes. Le 10 avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 29% des électrices ne sont pas allées à leur bureau de vote, contre 24% des hommes. Et vous, est-ce que vous votez ? Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe.
Caroline Garnier, productrice.
À voter.
Nicolas Gaspard, réalisateur.
À voter.
Julien Tarot, directeur artistique et compositeur des musiques originales.
À voter.
Sébastien Guidis, compositeur des musiques originales.
À voter.
Nathan Laporte, assistant production.
À voter.
Marie Corpet, chargée des partenariats et de la communication.
À voter.
Virginie Giraud, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire que vous retrouvez tous les jours en podcast et chaque week-end à 15h sur l'antenne d'Europe 1. Bien sûr que j'ai voté. Je remercie Jacques Vendroux d'avoir prêté sa voix au speaker du derby d'Epsom.
À très vite.